Salut Grégoire, bienvenue.
Salut Charlotte, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast.
Alors, tu as été avocat et maintenant tu es start-upper. Est-ce que tu peux nous raconter ta vie professionnelle, mais brièvement?
Ouais, brièvement. Effectivement, moi j'ai fait des études de droit des affaires, voilà, de façon classique pour devenir avocat. Je suis aussi passé rapidement en école de commerce. Et ensuite, donc j'ai été avocat moi à Paris. En fusion, acquisition, private equity, donc voilà, tout ce qui est activité transactionnelle, corporate, pendant 4 ans. J'ai travaillé dans deux cabinets, un américain, un français. Et donc, suite à ça, moi, j'ai quitté la profession il y a, enfin, quitté, ouais, la profession il y a 3 ans maintenant. Et j'ai lancé Close de 1 an plus tard. Donc, il m'a fallu 1 an pour bien préparer le projet. Je me suis associé avec, donc j'ai deux cofondateurs, un qui est avocat également. Et un qui est ingénieur, hein, puisque effectivement pour faire de la tech, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui connaît la tech.
C'est ça?
Et donc on a mis 1 an à bien maturer le projet, à créer le produit aussi, hein, la première version du produit, et à le lancer. Et donc
D'accord.
aujourd'hui, bah, je suis cofondateur et CEO de Closed, et plus spécifiquement, je suis en charge de l'activité commerciale et marketing.
Ok, alors avant d'aller plus loin, Closed, c'est quoi juste? Et c'est quoi le pain point que tu résous?
Ouais, alors concrètement, Close, c'est un outil de gestion de projet qui est dédié à la pratique juridique. Donc nous, on est parti de nos expériences. Hein. Mon cofondateur, mon associé Nathaniel, lui, était avocat plutôt côté finance. Et en fait, on rencontrait les mêmes problèmes, à savoir qu'on passait beaucoup trop de temps et d'énergie en fait à gérer du process plutôt qu'à faire du juridique à proprement parler. Donc, on passe énormément de temps sur des tâches manuelles, des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches dites administratives, qui sont assez frustrantes puisque ça ralentit en fait le déroulement des opérations. On passe beaucoup de temps à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire.
Comme
Et
quoi?
c'est aussi. Pardon?
Comme quoi?
Comme ben, en fait, à la base, on était parti d'un pain très très précis, à savoir sur les opérations transactionnelles, l'organisation et la gestion des closings. Donc, la signature en fait d'un tas de documents à la fin des opérations, quand tout est négocié, ben, on va se réunir dans une salle, on va imprimer des centaines, des milliers de pages de contrats et de documents, et on va devoir les faire signer par les différentes parties. Et ça prend vraiment des heures et des heures, voire des jours. Et donc, voilà, c'est très, très, très chronophage. En parallèle, il y avait à ce moment-là, il y a 3 ans, il y a 3, 4 ans, la signature électronique qui se démocratisait. Et donc, on s'est dit, bah, on va pouvoir quand même dématérialiser ces closings pour que ça nous prenne 2 heures et pas 10 heures. Donc, on est vraiment parti de ça. Et ensuite, on s'est rendu compte que dans le process des opérations juridiques, il y avait pas mal d'autres choses qu'on pouvait automatiser, comme en fait la collaboration de façon générale, c'est-à-dire l'échange d'informations et de documents entre les différentes parties prenantes, qui sont souvent très très nombreuses. Ça se fait par courrier, ça se fait par email, c'est très chaotique. On a du mal à suivre en fait l'avancement du projet de façon claire et à partager cette information avec le client aussi de façon simple. Et donc voilà, il y a plein d'étapes comme ça qu'on peut simplifier, qu'on peut automatiser. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'outils qui permettaient en fait de gérer une opération d'un bout à l'autre. Il y a des outils en fait sur certaines étapes très précises, type data room ou ce genre de choses. Il n'y avait pas un outil simple et intuitif qui permette de collaborer avec les clients d'un bout à l'autre de l'opération en automatisant toutes ces tâches manuelles. Donc, c'est ça qu'on a voulu faire.
Donc finalement, tu promets de la lisibilité dans les projets, tu promets aussi du gain de temps, donc j'imagine que tes clients doivent être ravis.
Alors, effectivement, nous, ce qu'on permet, en fait, les bénéfices de la plateforme, c'est à la fois quanti, c'est-à-dire qu'on va permettre un gros gain de temps, en fait, pour les avocats ou pour les juristes. On va simplifier, donc on va digitaliser, simplifier et sécuriser aussi le déroulement des opérations. Ça, c'est important parce qu'en fait, on est un outil 100% français. Toutes les données sont hébergées en France, tout est chiffré. Donc, c'est aussi très sécurisé pour les clients et les clients de nos clients. Donc, il y a vraiment un aspect effectivement quantitatif, c'est-à-dire qu'on va gagner énormément de temps, on va pouvoir faire ça beaucoup plus vite. Et un aspect qualitatif, c'est-à-dire qu'on va aussi permettre à nos clients de transformer l'expérience de leurs propres clients en leur offrant un outil qui est moderne, qui est intuitif, qui est agréable à utiliser. Et donc ça permet bah, de fidéliser les clients, de ramener plus d'activité à long terme. Donc c'est aussi du retour sur investissement, mais à plus long terme. Et
D'accord, oui,
donc
on pense aussi au client final.
Ah ben bien sûr, en fait, parce que comme je parlais de frustration tout à l'heure dans les process actuels, donc c'est des pratiques en fait qui ont été figées depuis longtemps et qui n'ont pas du tout évolué. Donc c'est frustrant à la fois pour les conseils, mais c'est aussi très frustrant pour les clients parce que souvent ils ont l'impression que ça avance pas, que c'est un peu laborieux, que c'est un peu chaotique et qu'on pourrait faire autrement parce que eux-mêmes, les clients sont souvent dans des secteurs qui ont déjà opéré leur transformation numérique et eux utilisent déjà des outils digitaux de simplification, d'automatisation, etc. et aimeraient que leur conseil leur propose des outils comme cela.
Donc, ça apaise les relations commerciales aussi avec le client, finalement.
Ah oui, non, tout à fait. C'est vraiment un outil en fait de marketing aussi pour nos clients cabinets d'avocats qui vont pouvoir offrir ça à leurs clients et aussi offrir ça à leurs collaborateurs et à leurs salariés qui ont besoin de ça et ça permet en fait de mieux conserver en fait ses troupes et avoir à recruter trop régulièrement. Voilà, c'est aussi un outil qui permet en interne de fidéliser les équipes.
D'accord. Et comment tu as fait pour avoir tes tout premiers clients? J'ai cru entendre dire que tu avais aussi des clients à l'international. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça?
Tout à fait. Alors nous, ça fait 2 ans, un tout petit peu plus de 2 ans maintenant qu'on a lancé le produit. Donc on a eu nos premiers clients il y a 2 ans. Alors aujourd'hui, nos clients, ce sont à la fois des cabinets d'avocats, des directions juridiques, et aussi d'autres structures qui gèrent des projets juridiques tels que des experts comptables, des entrepreneurs aussi, qui ont besoin d'avoir une plateforme qui permet de centraliser un peu tous les process et de simplement, très facilement s'échanger de l'information. Et nous, on a commencé avec des cabinets d'avocats, puisqu'on est avocat à l'origine, deux d'entre nous, et d'une part, on connaissait très bien les cas d'usage. Les problématiques rencontrées et notre produit a été conçu pour pouvoir régler ces problématiques-là. Et de l'autre côté, on connaissait aussi pas mal de monde dans le milieu. Et donc, on a contacté pas mal de gens, on leur a dit qu'on lançait ce produit-là, qui allait leur permettre de simplifier leurs opérations juridiques. Et on a cherché parmi ces gens-là, en fait, les early adopters, ceux qui allaient être OK pour tester un produit tout neuf et un peu servir de crash test hein, d'une certaine façon, même si ça s'est très bien passé. Mais voilà, clairement, un produit qui n'a pas encore de clients, il faut trouver des personnes qui ont le bon état d'esprit pour accepter de tester ça. D'autant que c'est assez important pour eux parce que vu qu'ils vont inviter leurs clients dessus, voilà, on n'est pas sur quelque chose qu'on va tester dans son coin, dans son bureau. On touche tout de suite au cœur de l'activité, à savoir la relation client. Voilà, donc on a réussi à trouver ces early adopters, quelques cabinets d'avocats et entreprises qui ont testé le produit pendant quelques mois sur des opérations, sur des projets qui nous ont permis de l'améliorer pour avoir une première version vraiment efficace et commercialisable. Et ensuite, de fil en aiguille, on a réussi à élargir tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, on a des clients à l'étranger, donc en Europe, en fait, et aux États-Unis aussi depuis peu, donc aujourd'hui dans 6 pays,
Ok.
évidemment majoritairement la France.
C'est bien parce que tu as co-construit un peu ton produit avec tes premiers clients, on va dire. Et puis après, hop, tu as exporté ça à l'international. Donc bravo.
C'est ça. Alors nous, on a la chance d'avoir un produit qui est facilement scalable, comme on dit, à l'international, puisque en fait, on gère du process et pas du contenu juridique, comme beaucoup de legal tech. Et donc les contenus juridiques sont très différents, effectivement, pays par pays. Nous, c'est du process. Donc la façon dont se déroule une opération d'acquisition en France, en Espagne ou en Pologne, c'est à peu près la même chose partout. Il y a des petites spécificités, mais globalement, les process sont les mêmes et donc c'est facilement internationalisable sans avoir besoin de trop modifier le produit.
Belle stratégie.
Ouais, c'est clairement un truc qu'on avait identifié depuis bien longtemps et effectivement, ça fonctionne bien pour l'instant. Donc on est content, mais il reste beaucoup de boulot.
Alors, revenons à ton produit. Comment tu as réussi à faire adopter ton produit à un public qui n'est pas toujours à l'aise avec le digital?
Alors ça, effectivement, c'est un gros, gros sujet. Clairement, on s'est lancé, donc toutes les legal tech, hein, dans un secteur qui a pris son temps pour opérer sa transformation numérique. On n'y est toujours pas entièrement, même si ça s'est largement accéléré dans les dernières années. Mais donc, voilà, c'est un secteur qui a pris beaucoup de retard. Et c'est en partie pour ça que les legal tech se développent parfois à un rythme qui est plus lent que dans d'autres secteurs. C'est qu'effectivement, on s'adresse à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des outils numériques, des logiciels, et donc il y a une courbe d'adoption qui est un peu plus plate que dans d'autres secteurs. Donc, selon moi, il y a deux choses qui sont vraiment primordiales. La première chose, c'est l'UX. Donc, l'UX, l'expérience utilisateur. Donc, très concrètement, c'est voilà, l'interface du produit et le fait de réduire au maximum le nombre de clics que l'utilisateur a à faire pour faire son action. Il faut que l'utilisateur se sente jamais perdu quand il est sur une page, qu'il sache toujours où il est et quelle sera la prochaine action, qu'il sache toujours où cliquer, etc. Et donc ça, c'est un métier à part entière. Nous, on n'était pas du tout, on connaissait pas du tout ça avant de démarrer. Aujourd'hui, on a des gens en interne qui sont spécialisés là-dedans, qui font ça toute la journée, à savoir réfléchir sur comment simplifier telle ou telle page, comment placer tel ou tel bouton. Et clairement, il faut que l'UX soit rassurante pour que l'utilisateur se sente jamais perdu au moment où il prépare son closing, où il envoie des informations à son client.
Cet aspect, il est super important. Hein. Je pense qu'on ne le dit pas assez, mais l'expérience utilisateur, c'est quelque chose d'essentiel. C'est la première chose à laquelle il faut penser.
Ah ouais, c'est absolument primordial. Nous, je pense qu'on se débrouille plutôt bien. Nos clients nous disent que la plateforme est simple, qu'elle est intuitive. Pour nous, on est très, très heureux d'entendre ça de la part de nos clients. Ça veut dire qu'on travaille bien, mais il y a toujours énormément de boulot là-dedans. Mais voilà, ça fait partie vraiment des deux choses essentielles pour permettre l'adoption rapide du produit. La deuxième chose, c'est le service client. Donc, je dirais même la proximité client. C'est-à-dire qu'il faut vraiment leur parler tout le temps. Nous, on a une équipe support qui est dispo 7 jours sur 7, qui est composée d'anciens praticiens du droit, donc qui connaissent à la fois parfaitement le produit, évidemment, mais qui connaissent aussi très, très bien les problématiques et les sujets qui sont gérés par nos clients. Et il y a un vrai travail en fait, d'évangélisation, de formation. Faut les rassurer sur le fait que ça fonctionne, que c'est simple. Mais c'est en fait parfaitement compréhensible dans le cas de notre produit parce que, comme je disais tout à l'heure, on touche au cœur de leur activité, la relation client. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser notre outil, pas en interne pour faire tel ou tel truc, dans le cadre de leur journée de travail, mais vraiment en fait, pour collaborer avec leurs clients. Donc, si ça ne fonctionne pas, si c'est compliqué, si leur client n'est pas content, ça va mettre à mal un petit peu la relation. Donc, c'est primordial qu'on soit proche d'eux, qu'on les aide, qu'on les accompagne. Et ça permet aussi, pareil, de faire en sorte que l'adoption soit plus rapide. Nous, on a mis ça vraiment au cœur de notre outil dès le départ. Et nos clients apprécient énormément. Et notamment, quand ils ont le choix entre un outil américain et Close, ils vont choisir Close parce qu'ils savent que l'équipe, elle est proche, elle est en France. Elle répond très rapidement aux demandes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est rassurant pour eux.
Alors, tu m'as dit 7 jours sur 7 avec un SAV composé de juristes.
C'est ça. En fait, nous, dans notre équipe, on a… En fait, le fait qu'on soit d'anciens avocats ou d'anciens praticiens du droit, c'est quelque chose qui est également primordial dans le développement même de notre boîte. C'est-à-dire que ça rassure nos clients et nos prospects de savoir qu'on a pratiqué
le même métier,
qu'on parle la même langue. C'est vraiment quelque chose qui est absolument indispensable. Et donc, effectivement, nous, on recrute des gens, alors pas sur les fonctions techniques de développeurs, etc., mais sur toutes les autres fonctions, on recrute que des gens qui sont passés à un moment qui ont un background juridique, qui sont passés par ces métiers-là. Et donc, notre équipe support, c'est le cas aussi. Hein, on est que des personnes qui ont pratiqué le métier. Et donc, c'est rassurant parce qu'effectivement, on parle la même langue. Quand ils nous parlent de sujets liés à leurs opérations, etc., on connaît les noms des documents, les machins, les process, on sait de quoi ils parlent et on peut les guider et on peut appliquer en fait la technique du produit à leur sujet concret juridique.
Le fait qu'il y ait un super UX, ça te permet d'économiser en SAV?
Alors, effectivement, c'est-à-dire qu'on a ce service client, je dis, qui est disponible 7 jours sur 7, etc. Mais en fait, on n'a pas tant de demandes que ça. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, l'UX du produit est assez bonne et donc on n'a pas tant de demandes. Et en fait, ce service support 7 jours sur 7, c'est aussi et surtout un élément qui est rassurant pour nos clients. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, d'un peu d'aventureux, mais on sait que quelqu'un peut venir nous sauver si jamais il y a un problème. Et dans ce cas-là, on y va beaucoup plus facilement. Et donc, en fait, c'est vraiment cet élément de réassurance pour nos clients et ça nous permet d'instaurer cette fameuse proximité client dont je parlais tout à l'heure parce qu'on obtient aussi très régulièrement du coup, des feedbacks, des suggestions pour la suite. Et ça, c'est hyper précieux pour le développement de l'outil.
Oui, tout à fait. Maintenant, je voulais parler un peu de ton business model. T'es sur quel modèle économique et comment ça se passe au niveau de ton seuil de rentabilité? Est-ce que là, tu as trouvé ton équilibre ou pas? Voilà.
Alors, notre modèle économique, donc nous, on est sur un modèle SaaS classique. Donc, SaaS, c'est software de service, donc c'est des logiciels en ligne. Et donc, le modèle classique sur des SaaS, c'est un modèle d'abonnement annuel en fonction du nombre d'utilisateurs chez le client. Donc, nous, on est sur un modèle comme ça à l'heure actuelle. Mais le pricing, c'est un vrai gros sujet. Donc,
Bien
nous,
sûr.
on a des, c'est un sujet qui nous occupe vraiment énormément depuis le début. On a beaucoup de cas d'usage différents chez nos clients, en fait. C'est-à-dire qu'on travaille avec des cabinets d'avocats de très différentes, enfin de différentes sortes, des entreprises, des directions juridiques, voilà, enfin, vraiment des clients qui utilisent la plateforme pour des choses assez différentes. Et donc, c'est pas simple de trouver un modèle qui convient bien pour tous, en fait. Par ailleurs, chez les avocats, il y a une problématique de refacturation. C'est-à-dire que Close, c'est un outil qui va être destiné, comme je disais, à la relation client, à réaliser ses opérations. Ça permet de mener à bien l'opération et ça remplace d'autres outils précédemment utilisés, tels que la reprographie, le transport, le courrier, etc. Et donc, en fait, c'est un frais de l'opération qui va falloir, pour beaucoup de nos clients, intégrer à la note d'honoraire. Et donc, il y a cette problématique de pouvoir isoler en fait le coût de close pour cette opération-là pour pouvoir le refacturer. Et donc, c'est des discussions qu'on a justement avec nos clients très très régulièrement pour essayer de trouver pile le bon modèle et avoir le voilà, même si le prix est le même, en fait, c'est une question de présentation et de effectivement pouvoir éventuellement le refacturer. Donc, on essaie d'ajuster ça, mais c'est un sujet complexe et qui nous occupe beaucoup.
Et oui, et le deuxième point du coup, pour ton seuil de rentabilité, là actuellement, la boîte, ta boîte va bien.
Alors, effectivement, Close va très bien. Au niveau de la rentabilité, ce n'est pas encore le cas, mais en fait, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on a levé des fonds en début d'année. Et en fait, du coup, ces fonds-là, il faut les investir, il faut les utiliser pour pouvoir grossir le plus vite possible et qu'ensuite, voilà, que la croissance soit bien accélérée. Et donc, le modèle de levée de fonds, en fait, implique de ne pas être rentable tout de suite. Mais on a du coup l'argent dans les caisses pour pouvoir éponger ce déficit, mais c'est fait exprès, c'est-à-dire que voilà, c'est un modèle de développement par levée de fonds qui implique une rentabilité un petit peu plus tard.
Pour ceux qui nous écoutent, toi, tu as fait une levée de fonds en seed. Donc, ça veut dire quoi?
Alors, en fait, il y a plusieurs phases quand on décide de lever des fonds. C'est assez bien cadré. Seed, en fait, en français, c'est ce qu'on appelle levée d'amorçage. Donc, c'est les premières levées de fonds. Alors, parfois, il y a du pré-seed. Enfin, voilà, il y a plein de termes comme ça, de jargon. Mais globalement, c'est les premières levées avec des investisseurs qui sont soit des business angels, soit des fonds d'investissement. Et donc, cette levée d'amorçage, c'est une levée avec d'un montant et qui est raisonnable, hein, qui est souvent en dessous d'un million d'euros. Et en fait, ça permet de mettre en place les premiers process, les premières méthodes d'automatisation, en fait, de recruter aussi les premières personnes qui ont des compétences qu'on n'a pas, et de trouver son business model. Voilà, donc vraiment de mettre en place, on va dire, les premières briques élémentaires de la boîte, une fois qu'on a trouvé, hein, évidemment, ce qu'on appelle le market fit, c'est-à-dire d'avoir un produit qui correspond à un besoin d'acteurs sur le marché. On va pouvoir mettre en place toutes ces premières briques-là, et ensuite, une fois que c'est mis en place, on va pouvoir faire d'autres levées de fonds, donc ce qu'on appelle série A, série B, série C, etc., pour pouvoir donc appliquer ces méthodes-là à plus grande échelle, ce qu'on appelle scaler. Donc ça peut être sur de nouveaux marchés, ça peut être sur de nouvelles zones géographiques, etc.
T'as levé des fonds, enfin vous avez levé des fonds avec tes associés et vous avez étoffé l'équipe. De quelle façon?
Absolument.
Vous avez
Ouais.
embauché combien de personnes?
Alors déjà, pour revenir rapidement sur la levée de fonds, on a fait une levée de fonds avec des business angels, enfin en tout cas des investisseurs non institutionnels, on va dire. Donc c'est des personnes à la fois du milieu de la tech et du milieu du droit. Donc on a effectivement des business angels tech et d'autres qui sont en fait soit des clients à nous, qui donc sont utilisateurs quotidiens du produit, l'apprécient énormément et souhaitent nous accompagner à la fois sur l'évangélisation du marché et le développement du produit pour que ça corresponde vraiment parfaitement à ce qu'ils font. Et des personnes du milieu qui, pareil, ont une expertise à nous apporter. Donc, c'est ce qu'on appelle la smart money. Donc, c'est de l'argent, mais à la fois aussi de l'expertise. Et donc voilà. Et donc cette levée nous a permis, ben, nous a permis d'investir dans tous les domaines et de recruter, bien sûr. Aujourd'hui, on est une quinzaine chez Closed. Donc on a recruté à la fois sur le côté technique, dans des développeurs, et bah, sur le côté également, évidemment, commercial, le marketing. Et on a investi donc dans le marketing pour se faire beaucoup plus connaître, pour pouvoir automatiser aussi l'acquisition de prospects et de clients. Donc en fait, voilà, on avait déjà mis en place pas mal de choses, mais ça nous a permis de recruter, comme je disais aussi tout à l'heure, des personnes qui ont des compétences qu'on n'a pas, puisque nous, chez les cofondateurs,
Et qui
voilà,
coûte
on est
cher
deux à
quoi.
avoir un background juridique et l'autre avec un background technique. Donc tout ce qui est effectivement commercial, marketing, design, etc., c'est des choses qu'on ne savait pas faire. Donc il a fallu recruter des gens qui allaient nous aider là-dedans.
Ok. Je sais que la levée de fonds, c'est quand même important pour beaucoup de startups. Bon, il y en a qui arrivent à faire sens, c'est très bien. Nous, on est sur, quand même sur des produits nouveaux. Il y a un gros travail d'évangélisation. Donc, en général, c'est quand même indispensable. Hein. Enfin, je me trompe peut-être. Donc, est-ce que tu as des conseils à nous donner en matière de levée de fonds? Comment ça se passe? Quelles sont les coulisses?
Ouais, alors c'est la levée de fonds, c'est effectivement un passage obligé pour pas mal de startups. Mais la première chose, c'est que déjà, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de startups qui effectivement cherchent à lever des fonds avec ce qu'on appelle des VC, hein, donc des fonds d'investissement. Mais en fait, il y a aussi d'autres modèles de développement, c'est-à-dire qu'on peut se financer par de la dette, on peut aussi se financer par le revenu qu'on génère. Et c'est des modèles de développement qui sont différents, mais qui sont pas. Enfin voilà, tout est possible. Par rapport à la levée de fonds avec des fonds d'investissement, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, c'est très, très chronophage. On passe énormément de temps donc, à contacter des investisseurs potentiels, à échanger avec eux, à creuser tous les sujets financiers, les sujets commerciaux, les sujets tech. Ça prend énormément de temps parce qu'on va lancer en fait plusieurs process en parallèle. On ne va pas discuter avec une seule personne parce que si ça ne marche pas, bah on se retrouve le bec dans l'eau. Donc il faut démarrer plusieurs process en même temps et ça prend énormément de temps. Et en fait, c'est du temps qu'on ne passe pas à développer sa boîte. Donc, quelque part, la phase de levée de fonds peut, au démarrage, en tout cas, ralentir un petit peu l'activité de la boîte. Donc, il faut faire super attention à ces choses-là. Et donc, c'est très, très utile, la levée de fonds, puisqu'évidemment, ça va être un gros apport de cash tout de suite qui va permettre de recruter typiquement et d'investir à un rythme auquel on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas cet apport de fonds immédiat. Donc c'est très utile, mais c'est aussi beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que on va être dilué déjà, donc on va perdre une part importante de sa boîte. Il va falloir rendre des comptes très très fréquemment. Et il faut aussi avoir un modèle de développement et un modèle économique qui correspond à ce que veut l'investisseur, c'est-à-dire généralement un exit, donc revendre de la boîte à horizon 5, 7, 10 ans. Et voilà. Et ça, on en revient au modèle économique, c'est-à-dire que quand on fait du SaaS notamment et qu'on veut lever des fonds, on est quasiment obligé d'avoir un modèle d'abonnement dont je parlais tout à l'heure parce qu'il faut de la récurrence dans le revenu, etc. Voilà, donc c'est vraiment très très utile de lever des fonds, mais il faut bien se rendre compte que c'est aussi un peu de contraintes. Il faut bien travailler le sujet, il faut préparer ce qu'on appelle un deck, hein, donc une présentation investisseur avec c'est toujours un petit peu la même structure, hein. On va parler de son effectivement des besoins auxquels on répond, du produit, de l'environnement concurrentiel, du modèle économique, de la roadmap produit, etc., pour essayer de convaincre un investisseur que c'est un produit qui va pouvoir décoller et faire se développer très rapidement, générer du revenu très rapidement, etc. Et donc ensuite, on va essayer de trouver les investisseurs qui correspondent à son profil, parce que des investisseurs, il y en a énormément, de tout type. Et donc, il faut trouver ceux qui correspondent au type de boîte qu'on a, qui ont déjà investi dans ce secteur-là, qui vont pouvoir nous apporter, comme je disais tout à l'heure, autre chose que purement de l'argent. Donc, s'ils ont déjà investi dans des boîtes similaires, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant. Et ensuite, il faut avoir un timing qui est assez clair parce qu'on peut vite s'empêtrer dans des process quand on parle à beaucoup, beaucoup de gens en même temps. Donc, il faut avoir un timing clair. On se dit, voilà, pendant 3 mois, là, je vais lancer des process pour essayer de trouver un investisseur. Et il faut les faire au maximum en parallèle pour que, en fait, quand on arrive à un stade de négociation avec l'un, on soit pas, on n'est pas un mois de retard avec l'autre. Et en fait, comme ça, on se retrouve avec on peut avoir plusieurs offres qui tombent en même temps et on peut les étudier, etc. Alors que si on a des process qui ont des timings très différents, on peut se retrouver un peu coincé parfois. Voilà, donc c'est voilà,
Non, mais c'est bien, c'est très très pratique. Donc, non, mais il faut le savoir tout ça, que oui, ça prend énormément de temps, c'est un
Ben...
travail à part entière hein, d'aller chercher des fonds.
Ah ben, c'est vraiment un travail à part entière et de toute façon, il faut se lancer dedans pour se rendre compte de ce que c'est, mais c'est clair qu'avant de se lancer dedans, on ne se rend pas forcément compte du temps que ça va prendre et de la difficulté que ça
Le
peut représenter.
stress, parce qu'il y a quand même une pression, mine de rien,
Ouais, bah après,
de la part.
ça dépend de comment dire, de la santé financière de l'entreprise, mais c'est clair que quand on essaie de lever des fonds et qu'on a un horizon un peu assez proche, un moment où on va se retrouver à court de cash, bah là, effectivement, ça peut être énormément de pression et il faut trouver des fonds assez rapidement. Donc ça dépend de la situation de la boîte, mais ça peut être assez rassurant. Ouais.
Ok. Bon, bah, ma dernière question, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place aujourd'hui pour accélérer ta croissance?
Eh bien, écoute, il y a toujours des tonnes de choses qu'on est en train de mettre en place. Là, ça fait 2 ans qu'on a lancé le produit. Aujourd'hui, on a une centaine de clients. La boîte tourne bien. On a un produit qui s'est bien développé, qui satisfait nos clients, etc. Donc, on est très content. On a passé cette phase-là. Aujourd'hui, on est dans une phase vraiment de consolidation, de fidélisation aussi de nos clients. Donc, bah, déjà, on a une roadmap produit qui est très, très dense. On continue à recruter dans ces métiers-là de développeurs, etc. Et on continue à sortir des fonctionnalités le plus régulièrement possible. On essaye aussi au maximum de se développer à l'étranger. On essaie de construire une marque connue, reconnue, qui donne confiance. Et on essaye aussi bah, de s'implanter dans des pays déjà en Europe. Donc en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, où on a déjà des clients et on essaye de faire en sorte que Close soit de plus en plus connu là-bas et de trouver un maximum de clients. Et ben on essaye aussi d'avoir une stratégie marketing de plus en plus forte, à savoir produire de plus en plus de contenu pour pouvoir bah, automatiser un petit peu l'acquisition de leads et de prospects. C'est quelque chose sur lequel on bosse. Donc voilà, il y a vraiment plein plein de choses. On est hyper excité à l'idée de continuer cette aventure et voilà.
Écoute, bon courage pour tout le chantier qui te reste, pour tous les chantiers qui te restent à mener.
Ben, merci beaucoup Charlotte. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
À bientôt.
Merci, au revoir.